Le boulevard Jean-Claude Ménard va devenir cet hiver une écoroute et pour nous en parler, on reçoit aujourd'hui la porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Caroline Brondeau. Bonjour.
Bonjour.
Une nouveauté pour nous à Fermont, c'est une écoroute. Ça va permettre, en gros, de diminuer les impacts environnementaux lorsqu'il y a l'entretien qui va être fait sur la neige et sur la glace sur le boulevard Jean-Claude Ménard. Madame Rondeau, pour commencer, en fait, j'aimerais qu'on comprenne mieux ce que c'est une écoroute, comment ça fonctionne.
En fait, une écoroute, c'est une route qui fait l'objet d'un mode d'entretien hivernal particulier, qui, comme vous le dites, permet de réduire les effets de sel de voirie sur l'environnement à proximité, qu'on parle des cours d'eau, etc., des lacs et des milieux humides. La sécurité n'est pas compromise, évidemment, dans cette écoroute-là, parce qu'on intensifie le grattage, finalement, les interventions de grattage et l'utilisation d'abrasifs. Les abrasifs, ce sont souvent des granulats mêlés avec du sable pour assurer la sécurité routière. Donc, on utilise un peu moins de sel, de fondant qui est comme moins bon pour l'environnement. On intensifie les opérations de grattage, puis on met un peu plus d'abrasifs. Donc, voilà, c'est la première écoroute sur la Côte-Nord. C'est à Fermont. On est bien contents.
Quand même, un grand changement dans le type d'entretien, en fait, de cette rue-là, ce boulevard Jean-Claude Ménard qui est à l'entrée de notre ville, donc un 3 km, dont l'entretien va changer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le boulevard Jean-Claude Ménard en particulier? Est-ce que c'est parce que vous voulez faire des essais? Est-ce que c'est la proximité aussi avec le lac Perchard qui est notre source d'eau potable? Pourquoi est-ce que c'est cette rue-là, en fait?
Mais en fait, il y avait quelques options qui ont été regardées, mais le boulevard Jean-Claude Ménard, en fait, cochait vraiment pas mal tous nos critères pour faire de ce tronçon-là une écoroute. C'est surtout parce que souvent, c'est des routes régionales et collectrices, donc à faible débit de circulation. Donc, c'est sûr que ça ne ferait pas un grand boulevard à Montréal ou à Québec qui aurait ce mode d'intervention-là. Mais surtout, on a regardé différents facteurs, notamment le fait qu'il y a moins de présence de courbes de pente et d'intersection, parce que sinon, on ne pourrait pas le faire. Le nombre de voies et la limite de vitesse également. Donc, puis, comme je disais, le débit journalier puis le type de véhicule qui circule aussi sont pris en considération. Donc, ce qui faisait que le boulevard Jean-Claude Ménard était quand même tout désigné là, pour faire de lui une écoroute.
C'était une idée de qui? Est-ce que c'est le ministère qui a regardé où est-ce que sur la Côte-Nord on pourrait planter une écoroute et l'essayer à Fermont? Est-ce que c'était une demande de la ville de Fermont? Comment ça s'est décidé, en fait?
Non, en fait, ça fait quand même depuis plusieurs années, là, depuis 2013, le ministère a développé un cadre de référence pour soutenir les directions générales territoriales comme celle de la Côte-Nord dans l'implantation d'une nouvelle écoroute d'hiver. Donc, c'est une démarche qui est structurée, qui a été réfléchie quand même depuis quelques années. Et puis, on a décidé d'aller de l'avant avec le boulevard Jean-Claude Ménard. Il y a une présentation au conseil municipal qui avait été faite aussi cet été, en juin, je crois. Donc, voilà, maintenant on y est, là, ça va commencer dès cet hiver.
Et depuis le début de l'implantation de ces écoroutes-là au Québec, il y en a maintenant plus d'une trentaine. Est-ce que ça se fait graduellement? Quand même, le projet a commencé à être moussé il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années. Comment ça se fait qu'on est seulement à 32 présentement au Québec?
Oui, ben en fait, c'est ça, il y a seulement 32 écoroutes, mais il y en a dans toutes les régions du Québec, ou presque. Il y a certaines régions qui n'en ont pas encore, mais comme je vous le disais, c'est vraiment pas toutes les routes qui peuvent devenir des écoroutes, là, parce que s'il y a trop de pente, s'il y a trop de circulation, tout ça, on peut pas le faire, parce qu'évidemment, il faut assurer la sécurité des gens. C'est vraiment très bien choisi, minutieusement choisi. Il faut qu'il y ait des équipes sur place qui aillent voir les équipes des centres de services, des techniciens qui aillent valider si le choix est bon. Donc, c'est quand même quelque chose qui se fait pas en une journée, là, justement, juste pour la Côte-Nord. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille à trouver une écoroute. On est content que ça, finalement, le projet se fasse, mais c'est pas quelque chose qui est si facile que ça à faire.
C'est quand même beaucoup d'étapes pour faire un changement dans l'entretien de certaines routes. Là, une trentaine, c'est pas tant que ça, considérant le nombre de routes qu'on a dans non seulement la Côte-Nord, mais également dans toute la province. J'imagine que vous êtes peut-être à la recherche de solutions autres pour pouvoir faire en sorte de réduire l'impact environnemental sur d'autres types de rues qui n'ont pas besoin de répondre aux critères que vous avez pour les co-routes actuelles avec le mode d'entretien que vous proposez.
Ben, je pourrais pas répondre à ça, mais ça veut pas dire justement que ça va être la seule écoroute là, sur la Côte-Nord qu'on va développer. Ça se pourrait qu'il y en ait d'autres dans les prochaines années. C'est sûr que le développement durable puis l'environnement, c'est quelque chose vers lequel on veut tendre, évidemment. Donc, c'est certain que si on veut réduire la quantité de sel de voirie, on va peut-être devoir trouver d'autres tronçons de route. Puis je parle de tronçons parce que parfois on pense que c'est des routes complète, mais ce n'est pas nécessairement des routes complètes, là, c'est vraiment des tronçons parfois. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'en trouver d'autres. Pour le moment, il faut commencer avec une première. C'est la seule sur la Côte-Nord, donc on est bien content. Donc, voilà.
Et on sait qu'à Fermont, nos hivers peuvent être plus longs. On a des conditions qui diffèrent un peu des fois. D'ailleurs, au Québec, avec les conditions hivernales qu'on est, on est en situation plus nordique, en fait, dans notre climat. Qu'est-ce que ça va demander là, en effectif? Est-ce que ça va être plus exigeant là, pour les travailleurs qui vont entretenir le boulevard Jean-Claude Ménard?
Bien, évidemment, si on parle d'une intensification des interventions de grattage, bien oui, ça va demander peut-être un peu plus d'efforts là, au niveau des entrepreneurs sur place, mais le tout va être très bien encadré. Tout le monde est au courant de toute façon. La signalisation déjà en place, là, les citoyens vont déjà pouvoir voir la signalisation là, pour dire que c'est une écoroute. Donc oui, ça va demander un petit peu plus d'efforts, mais au niveau de l'environnement, si on veut préserver notre environnement puis aller vers le développement durable, c'est quand même des efforts qu'on doit fournir.
Et pour l'instant, c'est notre seul accès terrestre là, pour se rendre dans la ville de Fermont et l'acquitter, en fait. Est-ce qu'il va y avoir des périodes de grattage là, qui vont être faites en relation, en fait, avec les heures de travail de ceux qui travaillent dans les mines? Parce que là, il y a certains horaires de travail qui sont ressemblants. Donc, ça fait déjà beaucoup de circulation en ville. Si on ajoute l'entretien plus intensif, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir plus de circulation, encore plus, en fait?
Ben, peut-être, je pourrais pas le dire, mais probablement que c'est sûr que s'il y a des gens qui sortent de l'usine puis qu'il y a une opération de grattage qui se fait, il va y avoir certainement un peu d'attente supplémentaire là, pour les usagers de la route. Mais ceci dit, ça sera pas catastrophique non plus. C'est comme à tous les hivers un peu partout. Là, souvent, on est devant une déneigeuse, une gratteuse. Ben, il faut prendre notre mal en patience. Mais ça continue, puis on finit toujours par trouver le bout. Là.
Puis le but d'avoir une écoroute, évidemment, c'est de réduire l'impact environnemental. Mais si jamais on a une tempête de verglas, des conditions exceptionnelles durant l'hiver, est-ce que il pourrait y avoir l'utilisation de certains abrasifs là, qui vont permettre d'améliorer la sécurité parce que ce qui est utilisé, des fois, ça répond pas en fait à tous les critères des conditions météo qui sont en place à ce moment-là?
Oui, effectivement. Dans le fond, le but visé, c'est de réduire l'utilisation des sels de voirie, mais pas nécessairement de les enlever complètement. Là. Donc, les sels de voirie peuvent être utilisés dans des endroits précis, même où il y a des courbes, où il y a une place que finalement, on constate que ça va peut-être pas super bien, c'est peut-être moins sécuritaire, on peut les utiliser tout de même. Puis, donc, il n'y a pas de problème là, si jamais il y a des, comme vous dites, des périodes de verglas ou de choses comme ça, c'est certain que les sels de voirie, on va quand même en avoir, là.
Et ça va être à partir de quand qu'on va avoir le système d'entretien en marche? On a déjà eu de la neige qui commence à tomber depuis ce matin, en fait. Est-ce que ça veut dire que bientôt, dès qu'on doit sortir les grandes machines pour faire le déneigement, on va commencer à les voir à ce moment-là?
Oui, exactement. Donc, ça commence là, dès cet hiver, dès que la saison commence. Donc, on a bien hâte de voir le bilan, là, effectivement, à la fin de la saison, pour voir comment tout ça a fonctionné. Voilà.
Et sous peu, on devrait avoir plus d'informations sur l'écoroute. On va avoir des pamphlets là, dans nos boîtes aux lettres. Pourquoi est-ce que c'est important pour le ministère, en fait, de donner des détails supplémentaires à la population? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des inquiétudes par rapport à cette implantation-là?
Ben, c'était exactement ça le but, dans le fond. C'est que c'était pour informer les citoyens si jamais les gens ont des commentaires ou des inquiétudes. C'est sûr qu'ils vont pouvoir donner, ils vont pouvoir les partager auprès du ministère. Mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est quand même déjà, qui avait été approuvé tout ça par le conseil municipal. Donc, c'est en marche. Mais c'était vraiment dans le but, effectivement, d'informer les citoyens, là, dans un but de transparence pour eux également. Donc, voilà, vous allez recevoir, comme vous le disiez, un dépliant dans vos boîtes aux lettres dans les prochaines semaines. Tout va être expliqué un petit peu, tout le concept, pourquoi qu'on fait ça, dans quel but ça a commencé, comment, etc. Donc, ce dépliant-là va être dans vos boîtes aux lettres dans les prochaines semaines. Et aussi, il y a eu une petite publication sur la page Facebook de la municipalité de Fermont qui menait vers le lien vers la page des écoroutes sur le site du ministère où là aussi on retrouve toute l'information que les gens ont besoin.
Et comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt dans l'entrevue, il va y avoir de la signalisation là, qui va être installée pour que les gens soient au courant qu'ils sont sur une écoroute, parce qu'il faut dire qu'elles sont rares, les écoroutes au Québec. Jusqu'à maintenant, on en a une trentaine, mais là, on fait partie de cette trentaine d'écoroutes-là maintenant.
Exactement. Donc, la première sur la Côte-Nord est le 2,79 km sur le boulevard Jean-Claude Ménard.
Excellent. Et tant qu'à vous avoir au bout du fil, Mme Rondeau, j'aimerais qu'on glisse un mot sur la route 389, le futur tracé là, qui avance beaucoup à proximité de Fermont, ce qui va devenir, en fait, notre 389 à terme des travaux. Là. J'aimerais connaître un peu plus la situation présente des travaux qui sont en cours et qui vont l'être jusqu'à temps que l'hiver s'installe, en fait.
Oui, ben en fait, le projet A, il a commencé depuis quelques semaines déjà, entre les kilomètres 507 et 566. Donc, dans le fond, les interventions prévues durant l'automne, ça va être la pose de ponceaux, la production de matériaux granulaires, puis les travaux de déblai et de remblai. Donc, c'est ça qui est prévu pour l'automne. Ensuite, on va recommencer le printemps prochain avec d'autres sortes de travaux, mais pour l'instant, je ne pouvais pas vous le dire, là, ça va aller à plus tard. Et c'est la compagnie Dexter Québec, là, comme vous le savez, qui a les travaux.
Et j'imagine aussi que c'est une belle nouvelle. On attendait de pouvoir finalement voir le début de ces travaux-là et c'est maintenant chose faite. On vous a talonné avec des questions pendant plusieurs mois, même années, en fait, parce qu'il y a eu des retards l'année dernière, il faut se le rappeler. Maintenant que c'est commencé, j'imagine que vous êtes contente de pouvoir aller de l'avant et faire en sorte que ce projet-là avance finalement.
Oui, exactement. Surtout que ça a été plus compliqué là pour octroyer les contrats pour la surveillance des travaux et la qualité, l'ingénierie des matériaux. Ça a pris 4 appels d'offres avant de pouvoir finalement débuter les travaux. Donc, les travaux, en fait, les firmes qui ont eu les contrats de surveillance, c'est Nordas Teldo, Cimaplus et Tetratech pour un montant de 27,3 millions. Puis le contrat pour le contrôle et de la qualité et l'ingénierie des matériaux, c'est la co-entreprise Englobe et Atkin Realist, qui est anciennement SNC-Lavalin, pour un montant de 9,5 millions. Donc, ça a été compliqué. Donc, ça aurait dû commencer en 2022, mais finalement, on y est. Là. 2023, on peut finalement commencer les travaux du projet A.
Et il y a plusieurs éléments qui ont été révisés, en fait, justement, la date aussi de mise en service de la future 389, qui, plutôt que d'être mise en service, je crois que c'était 2025, c'est maintenant rendu 2028 qui est visé. Le coût du projet aussi a été révisé à la hausse. Qu'est-ce qui explique, oui, il y a eu certains retards, mais qu'est-ce qui explique que c'est repoussé d'aussi longtemps et que le montant a autant augmenté là, en termes de dépenses pour le projet?
En fait, pour la mise en service, c'est certain que là, le fait qu'on a dû repousser d'une année le début des travaux, là, c'est sûr que ça l'a joué. Pour le reste, je pourrais pas vous dire pourquoi que c'est rendu 2028 ou plutôt que 2026, par exemple. Mais pour les coûts qui ont augmenté significativement, je comprends que c'est sûr que c'est des projets d'une rare complexité, puis les conditions actuelles du marché sont moins évidentes, là, notamment l'inflation, puis le fait que ce soit des travaux en milieu éloigné qui présentent quand même beaucoup de défis logistiques, techniques et administratifs, puis aussi la pénurie de main-d'œuvre qui vient s'ajouter là-dessus, qui provoque une augmentation des coûts. Là. Donc, c'est ce qui explique vraiment le nouveau coût qui a été vraiment quand même augmenté là, de 280,2 millions. En fait, qui est maintenant de 493,5 millions. Donc, quand même un bon, là, si je pourrais dire.
Mm-hmm. Une grande différence, en fait, oui. Comparativement au prix initial, mais en même temps, la vie change. C'est un projet de longue date également, donc ça fait en sorte qu'il y ait des changements en cours de route. Madame Rondeau, merci beaucoup d'avoir fait un petit résumé de ce qui se passe sur notre futur 389, mais également nous avoir parlé de l'écoroute qui va être en place dès la première vraie tombée de neige. J'ai parlé de neige tantôt, on a eu quelques petits flocons là, ce matin, mais ça va s'en venir. Là. Pour nous, c'est le début de la saison d'hiver là, qui commence bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.